Et si parfois résister, c'était rester chez soi. Luxembourgville, novembre 2019. Des Luxembourgeois s'agglutinent pour inaugurer les Galeries Lafayette de la toute nouvelle place Émile Amilius. Une place piétonnisée, des nouveaux commerces, une station de tram toute neuve, mais au milieu des façades modernes, un immeuble fait tache, tout droit sorti des années 60, un bastion. Alors que les négociations ont commencé 10 ans plus tôt, des habitants du 49 Boulevard Royal ont résisté à sa démolition. Résultat, tout le projet urbain a dû s'articuler autour de ce bâtiment récalcitrant, planté comme un témoin de pierre au cœur du changement. C'est cette résistance urbaine que raconte mon invité dans son troisième roman, Aux Nuits à Venir, qui paraît en collection blanche chez Gallimard. Bonsoir Geoffrine Donnedieu.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, révélée par Une histoire de France, confirmée avec Chienne et Louve qui vous a valu le prix de Flore. Pour vous explorer des univers traversés par la folie, l'amour dévorant et des héroïnes qui flirtent sans cesse avec leur propre marge. Et parce que la folie irrigue toute votre œuvre et les voix dans la tête aussi, on a eu envie de vous présenter une artiste et son double. Elle s'appelle Camille Constantin da Silva dans le civil, Gilda sur scène. Elle viendra nous interpréter en live un morceau inédit. À 18h30, comme tous les soirs, le panorama de la culture, au programme des défenseurs de la tapisserie de Bayeux, un bijou taillé par Mac Demarco, du cinéma en plein air et des métamorphoses. Alors barricadez vos portes contre les promoteurs, attachez-vous à votre canapé, après avoir allumé la radio, évidemment, le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Geoffrine Donnedieu, vous avez choisi comme pseudonyme le nom de naissance de Marguerite Duras, donc Donnedieu. Vous étiez au Vietnam, là, en vacances. Qu'est-ce que Duras incarne pour vous ?
Duras, pour moi, c'est l'artiste complète. Elle a écrit des romans, des pièces de théâtre, elle a fait des films, elle se permet de mélanger différents genres. Et voilà, pour moi, Marguerite Duras incarne la liberté.
Et pourquoi ne pas écrire sous votre nom ?
Alors, je ne voulais pas écrire avec mon nom pour plusieurs raisons. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans des services psychiatriques et je voulais bien faire la différence entre mon travail auprès des enfants hospitalisés et cette passion pour le roman. Et puis, j'avais vraiment envie de sortir de mon arbre généalogique pour me permettre d'écrire sur ce que je voulais sans tenir compte du regard de mes parents et peut-être un jour de mes enfants. Et je voulais me sentir libre également, et j'entends tellement d'auteurs dire j'ai attendu d'écrire ce livre parce que mon père est mort, parce que ma mère est morte. Bon bah moi j'attends pas qu'il soit mort comme ça.
C'était important pour vous d'aller au Vietnam sur les traces de cette autrice justement ?
Oui, alors moi j'avais vraiment envie de voyager cet été, de partir au Vietnam. Je n'y allais pas que pour voir les paysages que j'ai pu lire dans les livres de Marguerite Duras. Hein. J'ai pas fait tout le parcours Duras. Je me suis rendue seulement à Sadec pour voir la maison de l'amant, maison dans laquelle elle ne s'est jamais rendue parce que blanche et parce que pauvre et parce qu'une relation impossible. Voilà, j'ai pu naviguer sur le Mékong et c'était des moments très forts.
Avant d'échanger avec vous, Geoffrine Donnedieu, sur votre cuisine littéraire, on passe au moment test, au moment magazine de filles, au moment triangle, rond ou carré. C'est l'interview haute saison. Il se passait où vos étés d'enfance, Geoffrine Donnedieu ?
Alors généralement, on allait dans un club de vacances à Saint-Raphaël avec mes parents qui louaient une petite semaine à Pierre et Vacances, exactement, dans ce club. Et on en profitait pour voir une vieille tante à Fréjus.
Et vous en gardez quel souvenir ?
C'était des moments un petit peu compliqués pour moi parce que je crois que très tôt, vers 9-10 ans, se mettre en maillot de bain, le regard des autres, la transformation du corps, le regard de ses parents qui change aussi parce qu'on passe de fillette à adolescente, c'était pas forcément simple à gérer et j'avais hâte de retrouver l'automne et l'hiver.
Donc vous aimez pas forcément l'été ?
Pas forcément. Alors, en même temps, c'est une saison très intéressante pour réfléchir à des projets. C'est le moment où on est un petit peu en gestation. Mais moi, qui adore la nuit pour écrire, je préfère l'hiver comme ça.
Où les nuits sont longues. Vous avez plus de temps pour bosser. Votre plus belle histoire d'amour estivale, Geoffrine Donnedieu.
Alors, Hélas, je crois que j'avais 12-13 ans. C'était pour un jeune homme que j'avais rencontré à Saint-Raphaël. Mais il m'a fallu au moins 4-5 ans plus tard pour découvrir qu'il préférait les garçons.
Oh. la plus belle carte postale d'été que vous ayez reçue.
C'était je crois que c'est cet été, voilà, c'est une amie qui me souhaitait une très belle rentrée et qui l'avait vraiment noté sur son enveloppe et ça m'a touchée.
On va plonger dans les nuits à venir, Geoffrine Donadieu, mais avant ça, on avait envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. On est en 2010, la jeunesse se complimente à coups de « t'es trop swag ». Le legging se porte désormais en pantalon et la jeunesse se déhanche sur le groupe de rap Section d'Assaut avec un X. Mais il se passe beaucoup d'autres choses, écoutez bien.
Jamais, sans doute, un site internet n'avait à ce point bouleversé les relations internationales. Wikileaks sème la panique depuis hier soir en divulguant des milliers de documents confidentiels qui proviennent de toutes les ambassades américaines.
Alors on danse. Alors on danse.
Le smartphone le plus fin du monde, voilà comment Steve Jobs a présenté le nouvel iPhone hier à San Francisco. Il s'appelle tout simplement iPhone 4. Il a aussi une petite caméra sur la face avant qui va permettre d'avoir des conversations en vidéo.
Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Ça s'appelle l'inception.
Alors, on a entendu l'affaire Wikileaks, Stromae, Tayo Cruz, évidemment, la sortie de l'iPhone 4 et un extrait d'Inception. Vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans, Geoffrine Donadieu?
Oui, c'était un moment, voilà, j'avais terminé le cours Florent, j'avais eu même la mention très bien décernée par Monsieur Florent, et en fait, j'étais très contente, sauf qu'en fait, je ne voulais pas être comédienne.
Ah, ça
donc voilà, c'était idiot. J'ai fait 3 ans de formation pour rien, et je voulais vraiment écrire, donc je sais que ce moment-là était compliqué, et je suis partie sur un coup de tête à Rio de Janeiro, et j'ai vécu, au moins 6 semaines ou 8 semaines là-bas, chez une amie qui vivait dans un hôtel, donc je me souviens juste d'un été très étrange à errer comme ça dans Rio, à bien sûr ne pas du tout savoir parler portugais et avoir en plus du mal à rentrer parce que j'ai eu du mal à financer mon billet de retour.
Donc un été très particulier, mais vous ne vouliez plus être comédienne, mais ça vous a aidé dans votre écriture, on va en parler avant de s'engouffrer dans votre troisième roman pépite de la rentrée littéraire. On écoute Yanis Alès d'Embarras.
Yeah. La moula le bar, la moula le bar, je parle pas les bas, je suis bien dans les bas de ma down. Soit tu descends, soit tu montes tout en haut de la pyramide. Tout en haut de la pyramide, quoi. Quoi, quoi, quoi. Soit tu descends, soit tu montes tout en haut de la pyramide. 2h15, démarre en trompe dans le Vosser, 1h30. Je sais, ça fait mal quand tu tombes, mais bon, c'est la vie, l'ami. Là, tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil don't play with me. J'suis à l'aise, j'suis à l'aise, j'suis à l'aise, même en terre ennemie. M'emballer, j'vais pas rire quand je verrai le prix. J'suis à l'aise, j'suis à l'aise, j'en suis déjà à 2h30. Et j'continue, yeah. La moula, le barrage, j'parle pas les bas, j'suis bien que dans les bas de ma down. Plus compter les gars, j'peux compter les gars, là j'me prends pour tape. Quand je slalom sur le track, ils sont prêts à miser sur le crack. Celui qui a les yeux bien plissés sous la cape, qu'a la casquette vissée sur le crâne. J'suis au bled dans un cruiser, toi t'es un prouver de deux, qu'a la
je prends même pas la peine. J'hésite entre un boussem ou de la douceur. Tu une raclée qui se prend pas la tête. Dans son regard, c'est pas des balles à blanc. Mais mes émotions, j'en parle après. Je suis cloué au studio, il faut que je rentre dans la peine. Pour la suite avec Chick, il faut que je prépare un plan. Un plan bien carré, un plan bien ficelé. J'aime pas les fils de, j'aime pas les guises. Ça se demande des toffes, ça se demande c'est qui type. J'ai constamment l'impression d'être listé. Mais bon, je suis là parce que je le voulais. Ce serait très culotté de m'en plaindre. Maintenant, je peux montrer l'article au vendeur et lui demander mes démons pleins. Jusqu'ici, j'ai vécu ce qui les obstacles. J'ai mis tout mon cœur dans mes tracks. J'ai pas mis jaloux dans mes potes et je rajoute du parmigiano dans mes pattes. Dans ma tête, c'est Space Mountain. Malugueux à tel point que j'en casse mon tel. Malugueux, la mala, c'est pas mon thème. Malugueux, moi je préfère tes clats, mon terme, ma bugueux. Faut que je te parle de celle à qui j'ai fait couler tant de larmes de sel. J'en ai dégradé des tonnes de 16 que j'ai écoulé comme des grammes de cesse. Un peu fancy, un peu bougie, elle connaît même pas mon place de scène. Je viens de souffler 22 bougies, je suis dans la cuisine, j'ai pas de recette. Soit tu descends, soit tu montes tout en haut de la pyramide. 2h15, je démarre en trompe dans le Vosser à 4h30. Je sais, ça fait mal quand tu tombes, mais bon, c'est la vie, l'ami. Là, tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil d'en plaire au mi. Je suis à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise, même en terre ennemie. M'emballer, m'emballer, je vais pas rire quand je verrai le prix. Je suis à l'aise, je suis à l'aise, j'en suis déjà à 2h30. Et je continue, je continue, yeah.
France Inter, le mag de l'été.
Dévié, parqué, canalisé, les 2,5 millions de Parisiens qui sont revenus de vacances se sont trouvés pris dans un réseau de palissades et de barrières. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. Pétrole ? Non. Poursuite des travaux du métro express. En même temps qu'on élargit avenues et boulevards, on perfectionne la circulation souterraine. Et l'Arc de Triomphe a l'air prisonnier de flèches métalliques. C'est un fait qu'on avait rarement vu autant de grues tendre leurs bras d'acier dans le ciel de Paris.
Les travaux parisiens dans les actualités françaises de 64. Je voulais commencer par ça, Geoffrey Donadieu, parce que vous commencez Aux Nuits à Venir, par votre dernier roman, par une image urbaine que l'on croise tous les jours sans y prêter attention, l'échafaudage. Et sur Instagram, vous avez confié que vous avez commencé à rêver de ce qui pouvait se cacher derrière les bâches d'un chantier. Pourquoi cette figure a été le point de départ de votre roman ?
Parce qu'à chaque fois que je démarre un roman, j'ai besoin d'avoir une image en tête. Et pour Chienne et Louve, je suis passée à Strasbourg-Saint-Denis devant une vitrine de perruques et je suis tombée vraiment folle amoureuse d'une perruque fuchsia et c'était le départ de Chienne et Louve. Là, je savais pas trop où situer mon histoire et en face de chez moi, j'ai pu voir un échafaudage s'est monté. Et ça m'a passionnée en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un échafaudage? Quelle acrobatie on peut faire? Et tout de suite, j'ai imaginé tout un monde avec des circassiennes. Et je me suis dit, on passe tellement devant plein d'échafaudages que c'était. Je trouvais ça tout d'un coup très poétique.
Dans vos deux premiers livres, Une histoire de France, puis Chienne et Loup, on suivait Romy, une héroïne marquée par les violences sexuelles et puis son obsession qui était celle de devenir comédienne. Avec Aux Nuits à Venir, on rencontre Romy, vous changez de peau. On rencontre Marge, pardon, vous changez de peau. Est-ce que vous avez eu le sentiment de faire un deuil de Romy? Est-ce que vous avez eu un sentiment d'abandon de votre personnage?
Non, pas du tout, parce que je pense que le personnage décide aussi de nous quitter parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Je me souviens que quand j'ai commencé mon deuxième roman, moi je voulais vraiment quitter Romy, j'en pouvais plus parce que le premier roman était quand même une histoire très difficile de pédophilie féminine et j'avais pas du tout envie de continuer avec ce personnage qui était très très torturé. Et j'ai tout fait pour la laisser et c'était impossible. Elle avait encore des choses à dire et à la fin de Chienne et Louve, elle n'est pas revenue et j'avais besoin de m'attaquer à une autre héroïne et Marge a pointé le bout de son nez.
Marge, elle a la trentaine, elle ne vit pas dans la norme avec des grands guillemets et elle va se réfugier sur un chantier dans l'immeuble en face de chez sa sœur et rencontrer l'amour. Comment vous pouvez nous décrire Marge, qui est-elle pour les auditeurs qui ne la connaissent pas encore ?
Alors, Marge, voilà, c'est une femme extrêmement libre, qui ne travaille pas, qui n'a pas de logement et qui a toujours un petit peu squatté chez les autres parce que, hélas, elle est envahie par des personnages, des créatures comme elle les appelle, et elle monopolise tellement son espace psychique qu'elle n'a pas la place pour autre chose, et donc elle fait vraiment des crises de somnambulisme également la nuit, et ces personnages en fait la menacent régulièrement de lui faire vivre un enfer si elle ne raconte pas leurs histoires. Donc forcément, à partir de ce moment-là où elle est envahie par ces créatures, c'est très compliqué pour elle de mener une vie normale, et on découvre Marge au moment où elle est virée de chez sa sœur et qu'elle se retrouve à la rue, juste avec sa cantine militaire et quelques affaires.
Alors vous êtes habitée par vos personnages en tant qu'autrice, Geoffrine Donadieu. Vous aviez pris des cours, il me semble, de striptease pour habiter Romy pour votre deuxième roman. Pour Marge, vous êtes allée jusqu'à vous former au cirque, vous avez fait du trapèze, vous avez accepté aussi de perdre pied. Pourquoi vivre dans la peau de vos personnages ?
Parce que je pense que ça, c'est resté quand même du théâtre. Ce que j'aimais, c'était vraiment le travail de table, déjà, la découverte d'un texte, mais c'était aussi de comprendre la psychologie d'un personnage. Et pour ça, je pense que vraiment, il faut se mouiller. Et c'est ce que j'ai fait également pour Nuits à venir. Donc, j'ai pris des cours avec des danseuses aériennes pour apprendre à danser autour d'un tissu aérien, parce que j'avais besoin de décrire les mouvements que peut faire Marge autour de la bâche, sur l'échafaudage. C'était une expérience intense, mais comme j'ai rencontré aussi des promoteurs immobiliers, des militaires, des neurologues et des psychiatres, c'est toujours un moment passionnant de rencontrer toutes ces personnes qui sont éloignées de ma vie.
Dans le roman, Marge s'éprend de Victor, un ancien militaire qui s'enferme dans son appartement et qui rejoue ses guerres. Ensemble, ils mènent un siège contre le monde, donc la guerre, elle est partout dans vos romans. Mais ce roman-là, il donne aussi au lecteur une sensation de huis clos, parfois d'étouffement. On vit derrière les bâches avec les personnages. Justement, pour nous décrire cet enfermement et cet amour aussi qui consomme, j'aimerais que vous lisiez un extrait de Nuit à venir. Alors, on est là face à un couple qui ne sort plus de son appartement. On vous écoute, Geoffrine Donadieu.
Très bien. Le 46 bis est plus miné que Verdun. Marge est une bombe prête à exploser. Victor a une bombe dans le crâne qui ne cesse de grossir. Tout penche. Tout se fissure, l'air est dangereux. L'appartement qui semble rétrécir chaque jour est en pente. Les ouvriers ont posé des étés aux fenêtres entre Noël et le Nouvel An. Désormais, il fait toujours nuit dans l'appartement. Et dans cette nuit qui n'en finit pas, Victor aide Marge à creuser encore dans sa mémoire pour comprendre à qui appartenait le petit coup blanc. Il fait nuit dans leur cœur. La fin de cette drôle de guerre approche. Ils le savent, ils ont abandonné leur entraînement. À quoi bon ? Elle danse sur un fil invisible sans jamais tomber. Une petite voix lui dit de tenir bon. En équilibre sur l'échafaudage, elle enchaîne les figures à la belle étoile, tandis que l'ombre de Victor galope derrière elle.
Merci à Geoffrine Donadieu. Un extrait d'ONU à venir qui paraît chez Gallimard pour la rentrée littéraire. Dans la deuxième partie de notre entretien, on va se plonger dans les méandres de la folie comme forme d'écriture et comme personnage. Mais d'abord, un petit panorama de la culture. Ça sera après une fan de thé vert, Green Tea Peng, chante Watchamine sur France Inter.
To me, you gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop making us, tell me to my face, here for it now. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me. Take it on your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. Good thoughts and it shows. By the bits they grow. Jealousy no more. That must have been controlled. Green eyes and they bold. From my goal, grip, grip it, hold. The certain chest it grows.
Sweet drip drip, yeah, we pouring. The monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring. It's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of.
La soul psychédélique de Green Tea Peng, c'était Watch I Mean, extrait de l'album Tell Them It's Sunny.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h32, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle, c'est le panorama.
Panneau, oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Là, on est vraiment devant une partie de la tapisserie de Bayeux.
Oui, la tapisserie de Bayeux est extrêmement longue puisqu'elle fait 70 mètres de long sur simplement 50 centimètres de hauteur. En se déplaçant devant elle pas à pas, c'est de constater que tout d'un coup, il y a un tournant et il y a encore autant de longueur à voir. Mais finalement, sur une tenture aussi étroite, l'effet de surprise est permanent.
Ils ne s'accrochent pas à leur canapé, mais à leur tapisserie. Emmanuel Macron a annoncé le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum de septembre 2026 à juin 2027. Cette œuvre, récit brodé du XIe siècle, raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Mais une pétition sur le site change.org réclame l'abandon du transfert. Plus de 52 000 signatures cet après-midi. Le texte dénonce, je cite, un crime patrimonial qui met en danger l'œuvre millénaire selon l'avis d'experts. Côté Élysée, Philippe Bélaval vient d'annoncer à l'AFP que la tapisserie n'est pas intransportable. L'option envisagée, un transport routier sécurisé par camion, les Bayeuxins donnent du fil à retordre aux British.
Michael, c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je comprends pourquoi vous voulez pas qu'on vous trouve. Il faut que vous restiez ici pour les protéger. C'est eux, votre famille.
Cap sur Bagnolet pour une parenthèse magique. Demain au parc départemental Jean Moulin, l'Aiguillon Ciné-Jardin fait son retour. Au programme, le splendide film d'animation Le Royaume de Kensuke de Neil Boyle et Kirk Henry. Ce festival mêle cinéma et écologie dans les jardins du nord-est parisien, avec chaque soir une projection gratuite et familiale, précédée d'une visite du dit parc et d'un buffet participatif. Un rendez-vous poétique et gourmand qui dure jusqu'au 6 septembre. Info sur le site de Ciné-Jardin.
Reveal yourself to me.
Il y a des artistes qui, quoi qu'ils fassent, resteront irréprochables à mes yeux. Le Canadien Mac DeMarco en fait partie, membre à vie de ma petite famille de la perfection. Notre objet culturel du jour, c'est Guitar, son nouvel album. Un disque intime, dépouillé, presque nu. 12 morceaux qui se télescopent comme une ode au calme, à la douceur et à la solitude. Avec ce disque, DeMarco nous installe sur son canapé de Los Angeles et nous glisse dans son univers nonchalant, tendre et mélancolique. Nous devenons tous ses confidents et c'est merveilleux.
Depuis trois saisons, vous êtes des millions à vibrer devant les plus grandes stars du drag français. Elles vous ont conquis avec leur talent, leur look incroyable, leur humour.
J'ai pas compris.
Leurs histoires et leurs victoires. Mais celles qui n'ont pas gagné, n'ont pas dit leur dernier mot.
Pour prendre leur revanche, elles sont prêtes à tout.
Let's go les filles.
Qu'on me ramène mes All-Stars.
J'ai tenu 19 émissions sans avouer ma passion coupable, la télé-réalité. Pour cette dernière, chers auditeurs, je devais vous parler de ma pépite à rattraper d'urgence, Drag Race All Stars, un télécrochet où des drag queens s'affrontent jugées sur leurs talons dans des tenues poétiques et ou hilarantes. Diffusée sur France TV, Drag Race France est une ode à la tolérance, pimentée de blagues délicieusement mauvaises. Cette saison All Stars réunit d'anciennes compétitrices prête à en découdre. Et même mon père de 73 ans a sa favorite, la Big Bertha. Il ne manque plus que vous avec avant la grande finale enregistrée hier soir à l'Olympia et diffusée la semaine prochaine.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je ne sais pas, moi, que diable ouvre les yeux.
Et quand je les aurai bien ouverts?
Tu t'apercevras peut-être que tu as épousé un fou.
Tu n'es pas dans ton bon sens.
Non?
Je veux bien faire un effort pour comprendre ce qui s'est passé, mais je te l'ai déjà dit hier.
Tu l'as connu en uniforme.
Et moi, je t'ai déjà dit que l'uniforme n'y était pour rien.
Il était beau, et toi, tu as eu envie de lui. Rien d'autre qu'un désir brutal. Du nom de ce tramway qui emprunte les rues de ces quartiers. Étroites et sinueuses comme des serpents.
L'as-tu jamais pris, le tramway dont tu parles?
Bien sûr que je l'ai pris. Et je le regrette. Quelle honte d'être ici.
Un tramway nommé Désir, monument du cinéma américain des années 50, une adaptation de la pièce éponyme de Tennessee Williams. Tennessee Williams, qui est une figure tutélaire et qui revient souvent dans vos propos, Geoffrine Donadieu. Vous avez même consacré un texte dans une revue à son sujet, pour la revue Aventure. Qu'avez-vous trouvé chez lui qui vous accompagne dans votre écriture ?
Sa poésie, j'aime aussi la façon dont il traite les personnages féminins, où il est toujours ces personnages féminins sont toujours sur la crête justement de la folie. J'aime sa façon à lui de raconter une histoire au présent, mais de toujours mêler ce passé qui revient, de mettre au cœur de ses intrigues la famille, les fantômes, les morts, et voilà, c'est un dramaturge qui me passionne et qui est un véritable modèle pour moi. Oui.
Vous dites même qu'il a sublimé la folie.
Oui, totalement.
Et qu'il a rendu belle, je vous cite. Dans vos romans, vos héroïnes entendent des voix. Elles vivent avec une rumeur intérieure, une polyphonie intime. Comment on écrit ces voix multiples? Comment on les rend lisibles dans l'écriture?
Ça a été vraiment un travail de recherche pendant un an. Je savais pas si je devais les mettre à part, si je devais les intégrer au texte ou pas. Voilà. Et je me suis mis, en fait, elles font partie du personnage. Elles sont dans la tête de Marge. Et par conséquent, je vais m'amuser comme ça à les faire parler à l'intérieur du discours de Marge. Et puis après, c'est aussi une discussion que j'ai pu avoir avec mes éditeurs, Jean-Marie Laclaftine et Anne Vigeoux. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est mis en place automatiquement.
Marguerite, que tout le monde appelle Marge, elle vit justement à la marge, désolée pour ce petit rapprochement, et elle vit aussi à l'opposé de sa sœur Violette qui incarne la norme bourgeoise, l'enfant, le mari, l'appartement impeccable. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce contraste entre deux sœurs ?
Parce que finalement, ce sont deux sœurs qui se ressemblent et c'est juste que les deux ont essayé d'éloigner comme elles pouvaient la folie à leur façon. Et finalement, Violette s'est mis un cadre stable. Elle est elle-même devenue psychiatre pour révéler et trouver comme ça des formes de folie chez les autres pour ne pas regarder la sienne. Alors que Marge accepte totalement de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'était intéressant de faire en même temps des sœurs aussi différentes parce que la plus folle des deux, est-ce que c'est vraiment Marge? Je ne suis pas certaine. Est-ce que Violette, qui s'enferme dans des cases, n'est pas plus folle que Marge, finalement?
Dans un portrait pour Libération, on lisait il y a quelques années que vous avez aussi connu une vie en marge, passant d'un hôtel à un canapé d'amis, une vie entièrement consacrée à l'écriture. Pour écrire, est-ce qu'il faut se mettre à la marge, Geoffrine Donadieu?
Bon, c'était un choix de ma part. Est-ce qu'il faut se mettre à la marge? Non, je ne suis pas certaine, parce que je connais quand même d'autres auteurs qui n'ont pas été dans des conditions extrêmes et qui malgré tout arrivent à écrire de très bons romans. Mais je sais que moi, ça m'aide. Par exemple, je suis pas du tout capable d'écrire sur une plage au soleil ou face à la mer. Je dois vraiment m'enfermer chez moi et me mettre dans une forme de prison.
Pendant les longues nuits d'hiver.
Voilà.
Votre héroïne, elle est aussi traversée par des images qui sont liées à un choc post-traumatique. Comment vous avez documenté cette écriture justement du choc post-traumatique qui revient sans cesse dans votre livre?
J'ai rencontré des psychiatres qui sont justement spécialisés dans les post-traumatiques, et puis j'ai aussi rencontré des neurologues pour comprendre comment on fabrique le souvenir, où est-ce qu'on emmagasine les souvenirs, comment les souvenirs rejaillissent. Et j'ai aussi rencontré des neurologues qui sont spécialisés dans les cancers du cerveau, parce que finalement le corps déclenche des symptômes qui sont tout à fait semblables à un choc post-traumatique.
Alors c'est une folie féminine que vous décrivez. La folie féminine a longtemps, on le sait, été réduite au diagnostic d'hystérie. Je pense aussi au merveilleux livre d'Adèle Yon, Mon nom est Elisabeth, où elle raconte l'histoire d'une arrière-grand-mère plus ou moins à la marge qui va être victime d'une lobotomie. Est-ce que vous cherchez, Geoffrine Donadieu, dans vos livres à réhabiliter la folie féminine, à la montrer comme résistance ?
Moi, je la trouve belle, la folie féminine. Elle n'est pas neutre, elle n'est pas fade. Il se passe toujours des choses. Mais encore une fois, qu'est-ce que la folie en fait ? Est-ce que Marge, finalement, tout ce qu'elle est, c'est elle se bat pour être elle-même, pour être libre. Et est-ce que c'est ça la folie finalement ? Je sais pas.
Dans Aux Nuits à venir, donc votre roman, l'amour et la folie s'entremêlent, se confondent. Est-ce que, selon vous, pour aimer vraiment, il faut flirter justement avec ces excès et cette folie là ?
Mais aimer vraiment, c'est aimer follement. Je pense que voilà, peut-être qu'avec le temps, il y a un petit peu plus de maturité, peut-être qu'on se calme un peu. Et encore, moi, je suis très heureuse quand je rencontre des femmes qui ont 60 ans, 70 ans, qui redeviennent de vraies adolescentes, parce que tout d'un coup, elles retombent amoureuses. Mais c'est comme l'orgasme, hein. J'ai pu rencontrer des sexologues quand je travaillais sur le personnage d'Odette dans Chienne et Louve, des sexologues qui me disaient que la femme pouvait jouir jusqu'à sa mort s'il n'y avait pas de soucis de santé. Moi, je trouve que tout cela est très rassurant.
C'est vrai que c'est rassurant. Vous avez animé des ateliers artistiques en milieu psychiatrique, c'est ce que vous disiez justement pour Histoire de France, votre premier roman. Qu'est-ce que vous avez appris auprès de ces enfants, de ces adolescents, sur justement la fragilité psychiatrique, et en quoi ça a nourri et ça nourrit encore votre écriture ?
Ce que j'ai beaucoup appris, c'est que voilà, il faut pas les mettre dans des cases, et que c'est ce que je leur disais toujours quand j'animais ces ateliers de théâtre, et qu'ils me demandaient parfois certains si ils étaient fous. Moi, je leur disais, mais je crois pas que tu sois fou, je pense que juste tu n'as pas eu de chance, et que toi tu as été plus ou moins repéré, mais il y en a beaucoup à l'extérieur.
Parce que la folie l'intéresse sous toutes ses formes et la passionne, on a eu envie de vous présenter une autre artiste, Geoffrine Donadieu. Elle s'appelle Camille Constantin da Silva, mais son double s'appelle Gilda, avec deux A. Vous l'avez peut-être découverte avec son premier single Pas assez, ou plus récemment avec Pensée d'Ilvienne. Elle prépare un album attendu pour l'automne et sera cet été à la rentrée en tournée, avec un passage à Rock en Seine demain. Ce soir, elle viendra d'ailleurs nous offrir un live inédit. Bonsoir Gilda.
Bonsoir.
Alors, Gilda est née, votre double, il y a une dizaine d'années, lors d'un atelier de clown. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette apparition ?
Elle est assez mystérieuse. C'était une formation. C'est même une spécialisation qui dure 3 ans.
Est-ce que vous avez fait le cours Florent, c'est ça ? Vous aussi ?
Je suis passée par là, par la classe libre des cours Florent, et après le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où c'est là qu'en première année, t'as masque et clown, et après tu choisis. Et j'ai eu une sorte de coup de foudre pour le clown qui m'a bouleversée, et que je comprenais pas, et en fait, au bout d'un moment, il y a des choses qui apparaissent que tu maîtrises pas. Et il se trouve que c'est ce fameux clown qui est que le tien. Ça peut que être le tien. Toi et moi, on n'aura jamais le même. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est que c'est pas soi, mais ça ne peut qu'être le nôtre. Et en fait, il y a une phase très précise qui ressemble à plein d'étapes religieuses, spirituelles, rituelles, qui s'appelle la naissance. On pourrait faire, tu vois, une espèce d'itération comme ça de ce moment-là, dans plein de cultures. Et il se trouve que mon maître Ivo Mentens m'a demandé à moi, et il me semble que je suis la seule à qui il a demandé ça à ce moment-là, comment tu t'appelles ? Et j'ai dit Gilda. Et après la naissance, quoi, la cérémonie, machin, c'est hyper cadré, c'est une discipline, laisse tomber. Ouais. Mais après ce moment-là, j'ai enlevé mon nez et je lui ai dit je sais pas qui c'est Gilda. Et il m'a dit, bah, moi non plus. Et après, j'ai commencé à chercher...
Justement, vous pouvez nous décrire, nous raconter déjà son histoire et puis sa forme physique qui est particulière.
Son histoire, je la connais pas encore entièrement parce que elle est arrivée un peu d'un coup. Et comme elle est longue et grande et vaste, je déplie la pelote depuis 10 ans. Donc les détails que j'ai pour l'instant, c'est que je pense qu'elle est apparue au 18e siècle. Je pense que elle a le même âge à chaque époque et dans la nôtre, elle a un âge, je sais pas trop lequel elle a là, tu vois. Mais elle a encore, elle a un peu le dos courbé. On dirait qu'on lui a un peu roulé dessus, tu vois. Mais pour autant, elle est quand même toujours assez joyeuse.
Et physiquement, parce qu'on la voit dans vos clips, comment elle est de visage, j'entends.
Ah bah son visage, en fait, elle pourrait être n'importe comment. Je vais pas spoiler comme ça, les gens iront regarder. Elle pourrait être n'importe comment.
Allez sur YouTube.
Mais elle a toujours le même regard. Elle a le même regard, à chaque fois, qui te traverse la gueule.
Vous allez nous interpréter un titre inédit en direct sur France Inter. Je vous laisse vous installer et pendant que vous vous installez, je me tourne vers vous, Geoffrine Denedieu. Vous avez pris des cours de théâtre. Est-ce que vous êtes penchée sur la figure du clown ?
Alors oui, parce que
justement là, en plus, vous vous êtes plongée dans le cirque pour votre personnage. Donc, oui, j'imagine que c'est une figure que vous fréquentez.
Alors moi, en tout cas, il y avait des options au cours Florent sur le clown, donc j'ai pu tester. Mais alors, c'était pas du tout pour moi.
Et comment vous faites pour parce que au-delà du clown, Gilda est habitée par son double. Vous, comment vous faites pour quitter vos personnages? Vous me disiez tout à l'heure pendant un CD que c'est compliqué de quitter vos personnages, de se remettre dans une autre histoire. Comment on fait pour les quitter?
Écoutez, moi, ça va passer par la course à pied, par de la natation. Je vais tout simplement ressortir et revoir des gens parce que pendant 2-3 ans, je m'isole et je vois presque plus personne. Donc, je reprends contact, je me recrée des amis.
Interlude musicale, pardon, sur France Inter avec votre clown à vous, Camille Constantin da Silva. Gilda prend possession du studio 621 en direct sur France Inter avec à vous.
Mais allez.
Merci beaucoup Gilda, c'était magnifique, c'était À vous, un titre inédit que vous nous avez interprété en direct au studio 621 sur France Inter. Je vous laisse vous réinstaller à la table avec nous. Gilda, vous avez grandi dans une famille de musiciens entre Rio et Paris, la bossa nova et le jazz. Vous nous racontez un peu cette enfance musicale?
Alors, des fêtes dans mon salon, ma mère qui invite tous les Brésiliens avec qui elle est arrivée en France, et d'autres arrivés avant, arrivés après. Et ça joue pendant des jours, ça fait à bouffer. Nous, on fait à bouffer, on fait des trucs pendant tous les week-ends, on est assises à la table dès le matin, on fait de empadão, empada, brigadeiro, pão de queijo. Et après, on est une bande d'enfants à naître tous en même temps. Et du coup, nous, on joue en fait là-dedans. Et il y a plein de... Il y a des fous, il y a des pas des fous, il y a des gens qui font rien, il y a plein de... C'est...
Qu'est-ce que vous gardez de la musique brésilienne dans vos compositions actuelles?
Tout. Tout. La musique brésilienne, elle est très très riche, elle est très diverse à plein d'époques différentes. Et là, il y a un album que j'adore qui s'appelle Construção, qui veut dire construction, de Chico Buarque. Et là, c'est vraiment cet album, c'est 69, je crois. Et c'est un ovni quand il arrive parce qu'on dirait une musique de film. Il y a des harmonies classiques, en même temps, il y a des arrangements très jazz. En même temps, il y a vraiment le groove et le root. C'est une sonorité, c'est produit vraiment très organique, très brésilien, très boisé, tu vois. Et ouais, tout est là. Et l'écriture, la poésie brésilienne, il n'y a rien de plus beau, c'est tout simple.
Vous nous donnez un peu des infos sur cet album qui va venir. Qu'est-ce qu'il va contenir? Quelle écriture?
Arrête.
C'est un secret, c'est confidentiel.
Bah non, mais qu'est-ce qu'il va contenir? C'est un patchwork de toutes ces époques qui sont ces vies que Gilda traverse, que je ne connais pas encore. Donc c'est plein d'images subliminales et on a essayé tous les gens qui ont travaillé sur cet album, notamment ma sœur Indy qui l'a réalisé. On a essayé de comprendre, mais on n'a rien compris. Mais
voilà. En tout cas, ça donne envie, Gilda. Cette émission touche malheureusement à sa fin. La fin des vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valise pour cette dernière ligne droite? Geoffrine Donadieu, votre coup de cœur de la rentrée littéraire?
C'est très compliqué. Il y en a beaucoup, et encore, je n'ai pas tout lu. Déjà, je veux dire, le meilleur titre pour moi, c'est Des obus, des fesses et des prothèses de Arnaud Bertina.
Ça donne envie, c'est vrai.
C'est tout un programme. mais voilà, il y a aussi, j'ai envie de dire, Voyage de Victor Pouchet, qui est chez l'Arbalète. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de road trip. C'est drôle, c'est tendre, c'est triste. J'ai envie de dire, c'est un bon livre pour terminer les vacances et attaquer cette rentrée.
Gilda, votre bande-son de l'été 2025.
Le morceau s'appelle Onda et c'est Cassiano.
Pourquoi ?
C'est un morceau qui a été samplé plein de fois, qui est trop groovy, en même temps il est mélancolique, enfin, c'est la fin de l'été.
Merci à toutes les deux. Hein. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à toutes les deux, Geoffrine Donadieu. Ce roman fascinant aux nuits à venir, publié chez Gallimard, est sorti hier en librairie. C'est une merveille. Gilda, celles et ceux qui vont à Rock en Seine auront le plaisir de vous voir performer demain. Puis vous partez en tournée dès le mois de septembre, le 27 à Saint-Malo, avec un passage par la Cigale le 16 octobre. Joyeuse et jolie rentrée à toutes les deux. C'est mon dernier Mac de l'été. Je quitte ce studio avec une certaine émotion avant de le rendre à l'équipe de la rentrée. Cette émission n'aurait jamais vu le jour sans mes tic-et-tac de la culture Louis Tempé Perrault et Tara Natouri, qui m'ont initié aux coulisses du théâtre pendant que je leur donnais, moi, des cours express de K-pop. Merci à mes alliés du quotidien, alternants et stagiaires, qui ont prouvé haut et fort que non, la Gen Z n'est pas paresseuse. Bravo au trio Ibrahim Damadi, Étienne Kenel et Amazir Amadain Guest. Et puis le Mac de l'été et ses pastilles sonores n'auraient pas eu la même saveur sans nos merveilleux réalisateurs. Bon vent, Yann Ozaman, et merci pour ta patience face à mes volte-face. Et un immense clin d'œil aux techniciens ce soir, Louis Moreau et Alex Olara-Wejou, Ontinois.